Ok, nous allons entamer la deuxième partie. La deuxième partie. Et maintenant, nous avons compris que Dieu a besoin de faire un travail d'abord de restauration. Nous avons compris l'importance de la loi, de l'attraction. Nous avons compris que ça commence par moi. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités. De toutes les manières, tout ce qu'il y a de bon dans la vie s'attire. Dis à ton voisin, tout ce qu'il y a de bon dans la vie s'attire. Bon, demande-lui pourquoi est-ce que tu cherches des raccourcis. Hein? Pourquoi tu cherches des raccourcis si tu as compris que tout s'attire? Pourquoi est-ce que tu cours après les bénédictions? On ne court pas après les bénédictions, on les attire. Et nous avons compris vraiment que Dieu a un travail de restauration à faire en nous. Superman est mort, c'est une très très bonne nouvelle. Wonder Woman aussi a été enterré depuis longtemps. Peut-être avant Superman, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tous les deux sont décédés. Et je suis ce que je suis et tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Dieu n'attend pas que je sois parfait. Dieu demande juste que je sois disposé et que je me présente moi-même en sacrifice. Et il est prêt à consumer tout ce qui n'est pas de lui. Sache que si tu n'es pas entièrement restauré, je répète, tu n'attireras pas une bonne personne. Et là, ce n'est pas la peine de prier. C'est là, ce n'est pas la prière. La bénédiction ne vient pas sur ceux qui prient. La bénédiction vient sur ceux qui écoutent la voix de l'Éternel et qui se conforment à ses principes et à ses lois. Amen. Donc nous avons compris qu'il est vraiment indispensable, c'est la première étape. Si celle-là est loupée, tout le reste est loupé, et tu vas développer une relation de couple toxique qui va te détruire toi-même, et qui va surtout faire en sorte que tu vas détruire ceux que tu aimes. Parce que je le répète, les personnes blessées blessent. Les personnes blessées blessent. Elles ne font pas exprès, c'est tout ce qu'elles peuvent donner, c'est tout. C'est ce que certains de nos parents ont fait avec nous, mais je prie que tu ne répètes pas le cycle que tes parents ont connu et que toi tu produises un cycle de bénédiction. Je dis souvent et je le redis encore aujourd'hui, tu es appelé, je suis appelé à être la génération de la nouvelle alliance. Celle à partir de laquelle le joug de la malédiction est brisé, celle à partir de laquelle l'on initie la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Afin qu'en te regardant, tes enfants soient contents et qu'ils disent, voilà, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, qu'ils soient fiers de te regarder et fiers de te copier parce qu'ils savent qu'ils imitent Christ en t'imitant. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, lorsque j'ai été restauré par Dieu, lorsque j'ai accepté de laisser Dieu faire son travail, lorsque j'ai accepté que le feu de la sainteté de l'Éternel m'embrase et consume en moi tout ce qui vient du passé, lorsque j'ai accepté de quitter, de me détacher afin de m'attacher, lorsque j'ai accepté de quitter, je n'ai pas fini le travail, maintenant je dois m'attacher. Alors, comment est-ce que je fais pour m'attacher exactement? Comment est-ce que je fais pour ne pas me planter? Comment est-ce que je fais pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu? Alors, voyez-vous, aujourd'hui, qui a déjà entendu, tu dois prier pour connaître la volonté de Dieu? Ok, cette expression, nous l'avons tous entendue. Certains ont vu des songes, d'autres ont vu des visions, d'autres ont vu des anges. Il y en a comme nous, on n'a rien vu du tout, mais on a fait le bon choix quand même par la grâce de Dieu. Alléluia, amen. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le bon choix par la grâce de Dieu. Je suis marié à Miss Univers éternel, la seule, unique, la vraie, la véritable. Il n'y en a pas deux, il y en a. Tu as le droit de te classer en deuxième position et d'être une photocopie si tu veux, mais en tout cas, il n'y en a qu'une seule et c'est la mienne. Alléluia. Voilà. Mon papa n'a jamais parlé comme ça, moi si. Alléluia. Alors voyez-vous, on a tellement mystifié le mariage selon la volonté de Dieu. Il y en a qui se sont mariés sur la base de prophéties. Il y en a qui sont mariés sur la base de Dieu m'a dit. Et vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, je vais la raconter parce qu'il y en a beaucoup de vous ne la connaissez pas. À l'époque, j'étais dans une église où un jour, la femme, tout le monde avait des plans pour moi. Ce n'était pas des plans de paix et non de malheur, c'était des plans de calamité, de catastrophe parce que tout le monde avait une prophétie pour moi, tout le monde avait une vision pour moi. J'étais jeune, j'étais zélé, je craignais Dieu et j'étais quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, avait déjà été restauré. J'étais pas quelqu'un qui était en train de, qui cherchait à séduire les femmes. Au contraire, les femmes avaient peur de moi parce que quand elles approchaient de moi, elles disaient, le gars là, il est trop bizarre. Il aime tellement Dieu. Parce que vous voyez, tous les jours, ma prière, c'était toujours, Seigneur, fais-moi haïr le péché comme tu es le péché. Fais-moi détester ce que tu détestes, fais-moi rejeter ce que tu rejettes. Alors lorsque le poisson pourri arrive, tu comprends, il y a des gens qui arrivaient. Ah frère, le Seigneur, ah oh, tu es quelqu'un de merveilleux. Je sentais monter en moi une sainte colère. Je disais, ma soeur, je ne sais pas qui t'inspire, mais je sens que tu vas avoir une imposition des mains sur le visage. Si tu continues, tu dois t'en aller. Tu dois t'en aller. Et je dis, Seigneur, Jésus, aide-moi, Seigneur. C'est quoi ce que j'étais? Hein, comment? Oui, tout le monde avait des visions. Et puis je m'appelle un jour. La femme de mon pasteur à l'époque a eu une vision pour moi. Et puis, elle me dit, oui, le Seigneur m'a montré ta femme. Vous savez, les pentecôtistes ont vraiment des problèmes. Les pentecôtistes, soyez délivrés de l'esprit pentecôtiste et attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a montré ta femme. Et quand elle m'a dit le nom, le prénom de ma femme, mon visage, c'est... Il n'a pas brillé comme le soleil. Je vois qu'il a dû devenir froid comme un glaçon. Je ne sais pas c'est quelle est l'analogie qu'il faut utiliser. Mais je suis tombé dans une déprime totale. J'ai dit non, si c'est ça ma femme, bon, franchement, je crois que ce n'est pas le plus de marier. Dieu, tu ne peux pas me poser une chose pareille. C'est un supplice. Je ne serai pas... Et à l'époque, je me connaissais parce que je connais aujourd'hui. Mais j'avais déjà une chose, c'était le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle beaucoup par le témoignage intérieur. Amen. Il ne parle pas que par... Même quand il parle par une vision, par un songe, il doit le confirmer par un témoignage intérieur de paix, de joie. Tu dois être dans la joie. Hein? Quand on te dit, voici ta femme, voici ton mari, tu dois être dans la joie. Moi, j'ai déprimé. Et Dieu merci, quand je suis allé prier, Dieu m'a dit, non. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mon point, c'était juste ceci. Beaucoup de gens se marient sur la base d'une vision. C'est une tragédie. Et beaucoup divorcent aussi, dans l'église. C'est une tragédie. Que Dieu nous délivre. Alors cette expression, justement, prier pour connaître la volonté de Dieu, a tellement été mystifiée que la plupart des croyants ne savent plus comment on fait. Ils ne savent plus comment on fait. Et la vérité, vous allez vous en rendre compte avec moi ce matin, c'est que Dieu ne viole jamais ma propre volonté. En réalité, vous allez découvrir avec moi maintenant qu'il n'y a pas une volonté qui ça, il n'y a pas une seule volonté qui intervient dans le choix de son futur conjoint. Dieu a une volonté, moi aussi j'ai la mienne. Dieu n'a pas créé un robot à son image. Dieu a créé un être doté d'une volonté, du libre arbitre, du pouvoir de choisir. Il a une volonté, j'ai une volonté. Et vous allez vous rendre compte que les deux volontés doivent et peuvent et doivent collaborer pour trouver la bonne personne. Alors Genèse chapitre 2, versets 23 à 24. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Ok, mais c'est pas le passage que je voulais lire en fait. Voilà, c'est le verset 22 que je voulais lire. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Que quelqu'un dise, il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Le mot amener ici en hébreu est un mot qui est traduit en français par le sens de parader ou encore de défiler. Littéralement, je vous décris la scène. L'Éternel Dieu façonne Ève, comme disait un pasteur anglo-saxon anglophone, Coca-Cola chef, ouais, façonne la forme de Coca-Cola. Et quand Adam était là dans le jardin et il voit arriver une créature qui s'appelle Ève, il voit arriver une créature qui s'appelle Isha en hébreu, parce que lui c'est Ish, lui c'est le mâle, l'autre c'est la, littéralement c'est la femelle, littéralement. C'est le mâle qui peut porter le fœtus, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour un autre enseignement. Et donc, il voit arriver quelqu'un qui lui ressemble quasiment, mais à quelques exceptions près, c'est que non, franchement, elle est beaucoup plus solennelle que lui. Non, là, il reconnaît lui-même que elle, non, elle, il n'y a rien à faire. Tu vois, lui, il était tiré de la poussière, elle était raffinée, tirée à partir de la côte. Ça n'a rien à voir. La poussière, c'est brut, mon gars. Non, elle est raffinée, que quelqu'un dise raffinée. Elle est raffinée. Alors, la Bible dit, la responsabilité de Dieu, ça a été d'emmener. Dieu n'a pas dit à Adam, voici ta femme. Voilà ce que Dieu a fait. La Bible dit, Dieu a créé, et ensuite, il a formé Ève, et ensuite, il a simplement amené. Dès que Ève a commencé à tourner, et le mot amener, traduit de l'hébreu, veut dire parader ou défiler. Ça veut dire qu'en fait, Adam a dû assister en live à un défilé, au premier défilé de mode de l'histoire. Comment voulez-vous qu'Adam ne signe pas? Dès que Adam a vu Ève tourner autour de lui, Adam a commencé à parler en langue. Il a commencé à prophétiser. Aïe, ainsi par l'Éternel, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Elle sera appelée femme. Ah, Seigneur, c'est maintenant on signe. Maintenant on signe, tout de suite. C'est Adam qui a signé. Alléluia. Dieu n'a pas imposé Ève à Adam. C'est Adam qui a signé. La preuve, c'est que dans Genèse chapitre 3 au verset 12, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, Adam a dit, il a sous-entendu que c'était la faute de Dieu. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'âme. Il n'a pas dit la femme que tu m'as fait épouser. Il a dit la femme que tu as mise auprès de moi. Parce qu'effectivement, Dieu a pris Ève et il l'a menée vers Adam. Il l'a mise simplement. Adam n'a pas dit la femme que tu m'as contraint à épouser. Il a dit la femme que tu as mise près de moi. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39. Nous allons voir que cette interprétation de la parole est appuyée par le Nouveau Testament lorsque Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 39. Est-ce que vous y êtes? Ok, vous qui n'avez pas la Bible, donc est-ce que je peux lire? Ok. Alors suivez bien ce texte, il est très important et je le situe dans un seul contexte Paul est en train de parler du mariage d'une personne. Alors, on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 6, chapitre 7, pardon, 39. Alors, suivez très bien. Alors, ici, Paul parle du contexte d'une femme. Non, on va le lire d'abord, on va le lire, voilà. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ok. Premièrement, il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. La raison pour laquelle il ne faut pas se planter sur le choix de son conjoint, c'est que si tu te maries en Christ, si tu t'es marié avant et que maintenant tu viens et tu as divorcé, il n'y a pas de problème. Si tu te maries en Christ aujourd'hui, tu n'as pas le droit de divorcer. Pourquoi? Bon, en fait, c'est pas l'enseignement, mais il faut que je vous parle de ça quand même. Ça va vous faire comprendre pourquoi, faut pas, pourquoi on ne doit pas jouer. Vous voulez qu'on aille dessus?
Oui.
Ok, Matthieu 19. Bon. Matthieu. Non, faut pas dire, pasteur, faut pas dire. Et il a dit, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Celui qui a beaucoup entendu, on va lui demander des comptes. Oui, dans Matthieu 19, verset 10, Matthieu 19, 1 à 11 ou 12, Jésus donne un enseignement sur le divorce. Lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça veut dire littéralement, est-il permis à un homme de divorcer avec sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit, au commencement, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier ou encore de divorcer avec vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Point. Vous avez l'autorisation, Moïse vous a donné l'autorisation de divorcer. Oui, à cause de la dureté de vos cœurs. Vous me suivez? Maintenant, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie, qui divorce avec sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère, sauf en cas d'infidélité. Regardez la réaction des disciples. Quand vous voulez comprendre ce qu'ils ont compris, regardez la réaction des gens. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mon gars, vous ne voulez pas se marier. Et Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Et c'est vrai, tous ne la comprennent pas. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? Il leur dit, en fait, à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis de divorcer. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans quelques mois, on donnera l'enseignement sur les quatre piliers d'un mariage réussi. On va développer certains passages, certains détails de ce texte. Mais ici, j'attire votre attention juste sur, au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous le dis. Celui qui divorce avec sa femme et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Sauf dans le cas d'une infidélité. Pourquoi? Sauf dans le cas, on va dire donc, de l'adultère. Pourquoi? Parce que le mariage devant Dieu est une alliance. Le mariage est une alliance. Que quelqu'un dise alliance. Ok, comment expliquer ça? C'est profond, donc je suis en train de. Le mariage est une alliance. Une alliance n'est pas rompue parce que vous allez au tribunal. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, une alliance se faisait toujours avec le sang. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le sang symbolise la vie. La Bible dit la vie de l'homme, la vie de l'âme est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Et il y avait toujours le sang qui était versé pour symboliser une alliance. Une alliance, en fait, je vais aller un peu plus loin. Le mariage est béni à l'église, mais en réalité, il est consommé lors des rapports sexuels. Ce que l'on fait, c'est simplement prononcer la bénédiction lorsqu'on vient à l'église. Mais le mariage est consommé, c'est-à-dire il devient effectif. Le contrat devient indissociable, indébloquable, lorsque il est consommé, c'est-à-dire qu'on passe à l'acte. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe à l'acte? Il y a alliance. Pourquoi? Parce que le sang, dans la pensée de Dieu, mais je suis en train de commencer déjà la partie d'après, mais dans la pensée de Dieu, Lorsqu'une femme est vierge, comment scelle-t-on dans l'alliance? Lorsqu'une femme est vierge et que l'homme entre, le sang est libéré, le sang marque l'alliance. Pff, c'est fini, on est lié. Et on ne peut pas briser cette alliance en allant au tribunal. Ce n'est pas comme ça qu'on brise. On brise l'alliance lorsqu'on a des rapports sexuels avec une autre personne. La première alliance devient brisée, la deuxième devient effective. Alors il dit, lorsqu'il y a adultère, il y a rupture totale de la première alliance. La parole de Dieu te dit que la seule solution, si jamais tu as divorcé et que tu veux te remarier, il faut attendre que l'autre conjoint ait eu des rapports avec une autre personne. Là, tu es libéré. Il y en a maintenant qui vont commencer à prier. Seigneur, fais que, interviens, envoie-lui un homme. Ça, c'est une prière d'abomination. Ce n'est pas de Dieu que quelqu'un dise amen. Mais la seule chose qui te libère, c'est ça. C'est si il a rompu l'alliance. On ne brise pas une alliance lorsque le... C'est pas l'alliance n'est pas contractée par le procureur ou le juge. C'est entre les deux personnes. Ce n'est pas un homme qui peut détruire ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils ont utilisé leur volonté pour s'unir, ils sont liés. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Dis à ton voisin, faisons attention. Est-ce que c'est clair? Voilà. Merci Seigneur pour la parole. Maintenant, repartons à 1 Corinthiens chapitre 7. Il nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Parce que là, il évoque un autre cas dans lequel elle peut se remarier. Vous voyez ce qu'il dit? Elle est liée. Tant que le mari est là, si elle se sépare, elle est quand même liée. Tant que sa femme est là, s'il se sépare, il est lié. Que quelqu'un fasse, elle est liée. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, là, ok, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Qui elle veut. Est-ce qu'il est écrit qui Dieu veut?
Non.
Qui elle veut. Mais seulement que ce soit dans le de volonté. Elle veut et Dieu veut. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Il y a elle et il y a Dieu. Dieu n'impose pas. Alléluia. Maintenant, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit la volonté de Dieu a trois échelles. Elle a trois niveaux. Romains chapitre 12, verset 2, que nous connaissons pour la plupart, nous dit, je vais le dire avec la version du semeur, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version du semeur dit ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Que quelqu'un dise ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc parmi vous, il y en a beaucoup, vous avez déjà perdu la voix. Depuis que vous avez entendu ça, là, ça y est, il y en a, ils n'ont plus la force de parler, de répondre. Que Dieu te délivre. Donc la volonté de Dieu a trois niveaux. Le bon, l'agréable et le parfait. Le bon, c'est bon. L'agréable, c'est ce qui lui plaît. Le parfait, c'est le summum. Personnellement, je crois que le parfait n'est pas de ce monde. Je crois que le parfait, nous allons l'atteindre à la résurrection. Je crois. Parce que Jésus n'a pas fait la volonté parfaite de Dieu sur terre. Il a fait la volonté parfaite de Dieu lorsqu'il a traversé le Saint des Saints et qu'il s'est assis à la droite de Dieu et qu'il a fait la rédemption, la purification des péchés. Mais sur la terre, il dit, le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire que Jésus faisait le niveau agréable tant qu'il était sur terre. C'est quand il est mort à la croix, il a racheté l'humanité que là il est entré dans la dimension de perfection. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Amen.
Donc il y a trois niveaux. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens qui se marient dans la catégorie de la volonté bonne. Et on va voir quels sont les critères pour que je sois dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire la partie bonne. Parce que la volonté de Dieu a plusieurs échelles. Je peux faire ce qui est bon, mais je peux faire ce qui lui plaît. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que mon mariage peut être dans la catégorie du bon ou alors dans la catégorie de l'agréable. C'est-à-dire Dieu se voit et Dieu voit et puis se réjouit. Quand c'est bon, tu dis ok, tu n'as pas péché. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est top. Ce n'est pas au-dessus. C'est juste bien. Quelle est la volonté de Dieu? Juste pour être dans la volonté de Dieu, quels sont les critères qu'il faut observer? Rappelons-nous d'une chose, c'est que Dieu fonctionne avec des lois. Sa parole n'est pas négociable. Il a dit, les cieux et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Si tu n'es pas dans les critères de la volonté de Dieu, catégorie bonne, tu es dans le péché. Et après, n'essaie pas de manipuler Dieu en disant, Seigneur, viens bénir. Il y a deux critères dans la volonté de Dieu. Deux critères. Ça ne garantit pas que ton foyer sera excellent. Ça ne garantit pas que ton foyer resplendira, mais ça garantit que Dieu ne sera pas contre ce que tu auras fait. Mais ça ne garantit pas que ça réussira. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alléluia. Je répète, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est même pas la peine de prier pour que Dieu bénisse. On ne manipule pas Dieu. On ne dit pas, Seigneur, j'ai fait un choix, maintenant bénis. Dieu n'est pas ton esclave. On dit, Seigneur, fais-moi choisir ce que toi tu as béni. Fais-moi faire ce que toi tu approuves. Je ne te demande pas d'approuver ce que je fais. Il y en a un qui est créature, l'autre qui est créature. Toi tu es sur terre, lui il est au ciel. Voilà ce qui prouve qu'il est Dieu et tu ne l'es pas. Amen. Alors, quel est le premier critère de la volonté de Dieu? Premier critère de la volonté de Dieu, Paul nous le dit ici, c'est que ce soit dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Le premier critère de la volonté de Dieu, c'est que tu te maries dans le royaume de Dieu. Ça, mon frère, ma soeur, si ça, tu discutes là, ça te regarde. Si tu discutes avec ça, tu n'es même pas dans la volonté de Dieu. Ne c'est pas la peine de lui dire que ta volonté soit faite. Parce que avant de dire que ta volonté soit faite, Jésus nous a enseigné qu'il y a d'autres phrases à dire. Il y a d'abord Père. Notre Père, tu es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tout en moi s'écrit sainteté à l'Éternel. Tout en moi te glorifie. Ensuite, que ton règne vienne. Et c'est seulement quand son règne vient que sa volonté peut s'accomplir. Son règne vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire sa loi est établie dans ma vie. Sa loi prévaut. Sa loi est prépondérante. Ses standards sont prépondérants. Son influence est absolue. Sa prédominance est totale. C'est lui qui influence mes choix, mes voies, mes lois. Que ton règne vienne, ça veut dire, Seigneur, fais prévaloir l'ordre de Dieu. Pas l'ordre du diable ou du monde. L'ordre divin, fais-le prévaloir. Que ton règne vienne. Et quand je dis que ton règne vienne, maintenant je peux dire que ta volonté soit faite. Donc si tu ne comprends pas, si tu négliges cette loi divine qui dit que tu dois te marier dans le royaume de Dieu, laisse tomber. Quand on sera chauffé, n'appelle pas Dieu. Ne l'appelle pas, parce que sa loi n'a pas prévalu. Tu as fait ta loi. Alléluia. Il y en a qui ont manipulé Dieu. Tu te maries hors du royaume de Dieu. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais après tu dis, mon mari n'est pas converti. Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Non. Là, tu essaies de manipuler Dieu. On ne manipule pas Dieu. Dieu te regarde, il dit, moustique. Tu penses que je suis ton esclave ou quoi? Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon, mon frère. Il est doux, mais il n'est pas doudou. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. La Bible est formelle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La Bible dit que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, pas si tu vas à l'église, s'il te plaît, merci. Mais si tu as reçu Christ dans ta vie, tu deviens lumière, lumière du monde. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas reçu Christ, dans 1 Jean chapitre 5, verset 10, je crois, je ne sais plus trop. La Bible dit que ceux qui n'ont pas Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu Christ sont enfants du diable. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment le diable, non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, non. Ça veut simplement dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas de relation étroite avec eux. Et que ce qu'ils font n'est pas de Dieu, mais c'est du diable. Leurs œuvres, leur nature est corrompue, ils ne sont pas renouvelés, ils ne sont pas reconnectés avec Dieu. Ce n'est pas des gens que je dois mépriser, mais je dois juste comprendre que nous n'avons pas le même Père. Donc nous n'avons même pas la même constitution, nous ne sommes pas dans le même royaume. Donc nous ne sommes pas soumis à la même autorité. Il est soumis à l'autorité du diable. Pas parce qu'il aime le diable, mais parce que ses œuvres prouvent qu'il fait ce que le diable aime. Alléluia. C'est 1 Jean 3, 10, pardon, ce n'est pas 1 Jean 5, 10. C'est 1 Jean chapitre 3, verset 10. Le premier critère, si tu te maries dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire tu épouses quelqu'un qui a fait non pas l'expérience d'une nouvelle église, mais l'expérience de la nouvelle naissance, là, Dieu est OK avec toi. Parce qu'il y a des gens, ils vont à l'église. Tu calcules la sœur et tu vas à l'église. Non mais j'ai fait ça, donc je peux en parler. Et mon frère, je sais te reconnaître, toi qui... Je sais reconnaître ce genre de personnes, j'ai été dedans moi aussi. On va à l'église, on fait seulement de chanter, alléluia, on danse là. Ouais, que Dieu te bénisse, tu parles le langage des citoyens du royaume de Dieu, mais tu n'es pas dedans. C'est pas parce que tu parles français que tu as un passeport français, mon ami. Non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de clandestin. Il n'y a pas de faux papiers, il n'y a pas d'immigrés clandestins. Tu ne rentres pas. Les frontières sont barricadées par la gloire de Dieu. Tu vas passer par où? Tu ne rentres nulle part. Que quelqu'un me dise un bon amen.
Amen.
Voilà. J'aime dire la vérité. Je jubile quand je dis la vérité. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui baisse la tête et qui est embarrassé, qui est mal à l'aise, qui commence à serrer les jambes, serrer les doigts, les mains. Dieu est là pour te délivrer ce matin, cet après-midi. Alléluia. Premier critère, tu dois te marier dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu dois épouser une personne qui croit en Dieu comme toi. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Tu négliges ce principe, vous n'êtes plus d'accord. Vous êtes d'accord sur quoi? Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas la même croyance. Or, il a été démontré que la croyance détermine notre identité. Notre croyance, nos valeurs, nos croyances sont des choses qui soit nous mettent ensemble, soit nous séparent. Si vous n'avez pas la même foi, demain, là, quand il va dire, OK, mon enfant va s'appeler Kumbolo. Quand il dit, non, je veux qu'on l'appelle David. Non, il doit s'appeler David ou Jonathan. Non, moi je dis, il doit s'appeler Tu fais quoi? Et la Bible dit, femmes sont soumises à ton mari. Quand tu épouses quelqu'un, s'il n'est pas soumis à l'autorité de la parole de Dieu, tu fais quoi? Bon, il prend l'enfant. Il n'est pas converti. Il prend l'enfant. Sa famille dit, chaque fois qu'un enfant naît, un enfant vient au monde, on doit le donner au vaudou. Tu fais quoi? Est-ce que tu vas venir les problèmes? Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas la même vision. Vous n'êtes pas soumis à la même autorité. Vous n'êtes pas dans le même royaume. Donc vous n'obéissez pas aux mêmes lois. Et quand Dieu dit « Marie-toi dans le royaume », c'est parce qu'il veut te protéger, il veut s'assurer que vous serez déjà à un premier niveau de moins d'accord. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mis d'accord? C'est pas possible. Que quelqu'un dit « c'est pas possible ». Et en plus, la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Je suis obligé d'honorer les parents de ma mère, de ma femme, pardon. Sa mère, je dois l'honorer. Si son père était vivant, je dois aussi l'honorer. Donc, si tu épouses quelqu'un qui n'est pas converti, tu vas honorer son papa, le diable. Tu auras le beau-père. Et quand il vient s'installer dans le salon et qu'il impose les mains à tous les enfants, tu ne peux pas dire, non, ne touche pas mes enfants. C'est ton beau-papa, tu vas faire comment? Ton beau-père, tu ne peux pas le chasser de la maison. Si tu épouses un enfant du diable, Satan devient ton beau-père, c'est clair. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est sérieux. Satan va dans le... Et puis tous les enfants sont toujours malades. Toujours ils sont attaqués. Le diable vient, il touche le premier, l'aîné. Tiens, reçois. C'est pas l'onction du Saint-Esprit, ça. C'est la poisse, reçois. Et toi, tu es là, au nom de Jésus, non, laisse. Mais Dieu te dit, mais qui t'a dit d'aller te marier hors de mon royaume? Vous devenez une seule chair, n'oublie pas ça. Vous devenez un. Tous les démons qui étaient en lui, viennent en toi. Et tous les démons qui étaient en elle, mon frère, rentrent en toi. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne explique pas toujours le pourquoi. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est que c'est bon. Quand Dieu dit tu ne voleras pas. Quand Dieu dit tu ne haïras pas ton frère. Vous pensez que Dieu dit tu ne haïras pas ton frère, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vous pensez que Dieu dit tu m'aimes, faut aimer Dieu, faut m'aimer parce que tu vois que Dieu a un problème d'estime personnelle. À partir d'aujourd'hui, je ne t'aime plus, je vais te bouder, tu ne m'as pas exaucé, moi aussi je ne prie plus. Mais est-ce que tu crois que quand Dieu dit de prier là, tu vois ce qu'il c'est pour lui? Lui, il est au ciel, il est dans l'éternité. Mais Dieu, mais franchement, non mais franchement, mais il y a des croyants, ils ont une mentalité terrible. Ils ne comprennent pas. Je boude, je ne prie pas. Mais franchement, il a dit, même quand tu ne pries pas là, même les pierres vont louer. Les fleuves battent des mains. Est-ce que tu penses que toi, tu es indispensable pour Dieu? Non. Jette une pierre à la verticale, une grosse pierre et ne bouge pas. Jette-la vers le ciel, vers Dieu. J'en ai marre de toi. Bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Si elle est lourde, alors là, tu vas dans ce moment dessin animé où on enterre les hommes. Pouf. Lorsque Dieu dit aime, c'est parce qu'il sait que lui, il fonctionne dans l'amour. Quand tu aimes, tu vas te rendre compte que tu es comme un poisson dans l'eau. Tu es dans l'environnement naturel où tu fonctionnes normalement. Un poisson dans l'eau, il est gracieux, il est majestueux. Un poisson dans l'eau, il est solennel. Un poisson ne va pas à l'école de natation. Ah non, un poisson, dès que tu mets dans son environnement, c'est fini. Tu vois, quand on te met dans l'environnement de l'amour, mais dans l'amour, l'amour de Dieu, c'est fini. Lorsque l'amour de Dieu te remplit, tu deviens créatif, productif, tu es inventif, tu deviens gracieux, excellent, tu souris. Tu vois, c'est pas toujours comprimé, stressé, opprimé, déprimé, écrasé. Non. Quand Dieu dit aime, c'est pour toi, c'est pas pour lui.
Amen.
Amen. Donc quand Dieu dit marie-toi dans mon royaume, c'est pas pour lui. Franchement, qu'est-ce que tu veux que ça fasse à Dieu que tu te maries dans le royaume ou pas? C'est des conseils d'un père à son fils.
Amen.
Et il veut le meilleur pour ses enfants. Dis à ton voisin, tu dois te marier, si tu n'es pas encore marié, dans le royaume de Dieu. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui ne sourit pas à côté de toi. Mais bénis l'Éternel pour lui et prie dans le fond de ton cœur, dis Seigneur, touche-le. Le deuxième critère de la volonté de Dieu. Le deuxième critère, on le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 et 1 Thessaloniciens 4, verset 2 à 5. Le deuxième critère, c'est la sanctification. Oh, Jésus de Nazareth. Sanctification, je sais, un mot démodé, un mot impopulaire, un mot banni de la bouche des prédicateurs, puisque beaucoup sont noyés, eux aussi, ils plongent dedans. Donc, et puis un mot qui fait peur au pasteur, parce que si tu parles de ça, ils vont quitter l'église, ils ne vont plus donner les dîmes et les offrandes. Je le dirai. Sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que, alors là maintenant il explique pour quelqu'un qui fait semblant de n'avoir pas compris. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, d'autres traductions disent, de la fornication, et pour ceux qui ne décodent toujours pas, c'est des relations sexuelles hors mariage. Merci. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 18. C'est pourquoi fuyez l'impudicité. La version de Seigneur dit fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme puisse commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la fornication, c'est-à-dire aux rapports sexuels hors mariage, pêche contre son propre corps. Tu te détruis toi-même. Ça, c'est non négociable. La Bible dit que tu ne t'appartiens pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ton corps est la propriété de Dieu. Mon corps ne m'appartient pas. Je ne peux pas en faire ce que je veux, le trimballer où je vais, parce que la Bible dit que Christ vit en moi. Donc, quand je trimballe mon corps n'importe où, je suis en train de trimballer Christ n'importe où. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu réalises? Ton corps ne t'appartient pas. Il a été racheté à un grand prix. Son sang a coulé pour que ton corps soit délivré de la malédiction. Voilà pourquoi en lui ton corps peut de nouveau être guéri, même lorsque tu es malade. Ah. Alléluia. Bon, ça, ce sont les deux critères non négociables. Il y a quelqu'un qui dit, mais attends, on est au 20e siècle. Non, au 21e maintenant. Dieu a changé. Dieu comprend. Dieu comprend, tu sais, Dieu est miséricordieux. Les cieux et la terre passeront. Les paroles ne passeront pas. Je répète, Dieu veut que tu réussisses. Et il te donne un manuel d'utilisation. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, mépriser le manuel, et puis maintenant arriver à dire, ça ne marche pas. Votre produit ne marche pas. Non, le produit marche. C'est toi qui ne marches pas. C'est toi qui ne suis pas les règles. Alors, moi je me suis vraiment intéressé à la question, pourquoi est-ce que Dieu dit de ne pas toucher avant le mariage? Pourquoi est-ce que Dieu interdit les relations sexuelles hors mariage? Avant de vous répondre à cette question, je veux d'abord vous dire une chose. Un, parce qu'il faut libérer les gens de certains préjugés religieux qui ne sont pas du tout bibliques. Numéro un, le rapport sexuel n'a rien de sale. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont coincés. Dès que tu dis rapport sexuel, ouf, attention, Satan! Dès que tu parles rapport sexuel, tout le monde se pose à baisser la tête.
Il va parler, il là.
Je suis coincé, là, voilà, je suis coincé. Non, viens, troisième, sois relax. Sois détendu, dis-lui détendu. Ce n'a rien de mauvais. Si c'est Dieu qui a créé ça, c'est que c'est bon. À condition que ce soit fait dans le respect des principes et des lois de Dieu. Amen. Deuxième cliché qu'il faut enlever, c'est que le rapport sexuel n'est pas que pour procréer. Ça, c'est des préjugés religieux. Non, nous avons des rapports seulement lorsque nous décidons de faire un enfant. Non. Ça n'a aucun fondement biblique. La Bible dit ne vous privez point l'un de l'autre, sauf si c'est pour vaquer à la prière. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça vous regarde. Ce n'est pas la peine de venir faire des rapports à l'église. Ça vous regarde. Quand vous êtes marié. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu interdit le rapport sexuel? En fait, dans le rapport sexuel, il y a une réalité spirituelle que vous êtes en train d'accomplir. Je m'explique. Lorsque tu te fais baptiser, mon frère, ma soeur, il y a une réalité spirituelle qui a lieu. Le baptême en tant que tel, le fait de rentrer dans l'eau, c'est juste un symbole. C'est juste un acte physique qui cache une réalité spirituelle profonde. Est-ce que c'est vrai? Lorsque tu pries, il y a une réalité spirituelle. Le fait de prier, physiquement, il n'y a rien. Mais par la prière, il y a une réalité spirituelle qui est en train de se... Il y a une fusion entre le ciel et la terre lorsque je prie. Le ciel et la terre se mettent en harmonie. Lorsque je prie, lorsque je fais une offrande, il y a une réalité spirituelle qui est en train de se passer. Je fais une offrande, je donne de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Au ciel, quelque chose se passe. Dans le spirituel, quelque chose est en train de se passer. Un compte est en train d'être crédité. Un compte à mon nom est en train d'être crédité. Lorsque je vole, un compte à mon nom est en train d'être édité. Certains sont à découvert, mais c'est pas l'objet. Certains sont dans le rouge, et quand ils sont dans la galère, Seigneur, aide-moi. Dieu dit, ton compte est à découvert. Seigneur Jésus. Et de la même manière, lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, pendant que je fais la prière du salut, ici sur terre, il y a une réalité qui est en train de se passer. Quelque part, il y a un livre qui est ouvert, dans le monde spirituel, et puis mon nom est en train d'être inscrit dans le registre des naissances. Il y a une réalité. Donc, par l'acte sexuel, il y a également une réalité spirituelle. Quelle est cette réalité? Comprendre ça, pour le comprendre, regardez. Il faut repartir dans l'Ancien Testament, pour comprendre le temple de Jérusalem. Le temple que Moïse a construit, le tabernacle de Moïse, est pareil pour le temple que Salomon a fait construire après David, son père, avait trois parties. Que quelqu'un dise trois parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et puis il y avait le lieu très saint. Amen. Et la Bible nous enseigne dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode notamment, que la gloire de Dieu, la présence splendide de Dieu, la Shekinah de Dieu, habitait, résidait dans le lieu très saint. Et quand quelqu'un rentrait dans le lieu très saint, à cause de la gloire de Dieu, il tombait en extase. Il était tellement émerveillé que tout de suite, c'est comme s'il rentrait en transe. Ah, Dieu est là. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait uniquement le souverain sacrificateur. Une seule personne, le souverain sacrificateur. Celui qui avait reçu de Dieu le droit de franchir le voile. Parce que le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile. Et seul le souverain sacrificateur pouvait traverser le voile et entrer dans le saint des saints. Si quelqu'un n'était pas lié à Dieu, si quelqu'un n'était pas lié par cette alliance, si ce n'était pas le souverain sacrificateur, il tombait raide mort. Parce que Dieu ne plaisantait pas. Et la Bible dit que lorsque Jésus a expiré, le voile en question s'est déchiré par le milieu. Ça voulait dire que tous les croyants qui croiraient en Jésus-Christ, eux aussi, pouvaient désormais franchir le voile et entrer dans la présence de Dieu et expérimenter la gloire de Dieu caractérisée par l'extase de sa présence. Alléluia. Et la Bible nous dit enfin que le sang de Jésus a été versé pour sceller cette alliance. Parce que lorsqu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et lorsqu'il n'y a pas le sang, il n'y a pas d'alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce qui prouve la consommation d'une alliance, c'est lorsque le sang est échangé. C'est pour ça que lorsqu'un homme couche avec un homme, il n'y a pas de sang parce qu'il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de sang, ce n'est pas un mariage. Même si demain on dit mariage, ce n'est pas un mariage. Un mariage, ce n'est pas des paroles, des échanges de vœux. Un mariage, c'est le sang qui coule. Un contrat qui est fait. Pas un contrat, une alliance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ils ont beau inventer ce qu'ils veulent. Voilà, on va faire le mariage. C'est une abomination, ça n'a rien de biblique. Ils appellent ça mariage, Dieu dit c'est une foutaise. Oui, je suis vulgaire exprès. Il faut dénoncer certaines choses. Amen. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, au verset 1, que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament n'est qu'une figure, une représentation, une ombre des choses à venir. Ce n'était qu'une photo, une image, une ombre, une représentation. Ce n'était pas l'extrême réalité. Le temple de Jérusalem, dans lequel la gloire de Dieu habitait, la Bible nous dit que c'était juste une représentation du temple à venir. Et 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19, nous dit que le véritable temple de Dieu, en réalité, c'est le corps de l'homme. Alléluia. L'Église est son corps, et moi, à titre individuel également, je suis son corps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Maintenant, qu'est-ce que nous découvrons? C'est que, comme je suis le corps, vous devez comprendre que Dieu a créé le corps de la femme, puisque la Bible compare la relation entre Dieu, Christ et l'Église à la relation de l'homme et la femme. Amen. Dieu a créé le corps de la femme comme étant son temple, le corps même physique, spirituellement. C'est vrai que l'esprit, c'est vrai que l'esprit est le temple, mais physiquement, Dieu a créé le corps de la femme avec un lieu, avec un parvis extérieur, un lieu saint et un lieu très saint. Et le lieu saint, le lieu très saint de la femme, Dieu l'a protégé par un voile de naissance qui s'appelle hymen. Et le but de l'hymen dans la pensée de Dieu, c'est de réserver l'accès au Saint des Saints uniquement au prêtre, au souverain sacrificateur, à celui qui est le chef, celui qui est lié à cette personne par une alliance. De la même manière que dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur, parce qu'il était dans l'alliance, pouvait entrer. De la même manière, dans la pensée de Dieu, seul celui qui est lié à Dieu par la nouvelle alliance peut rentrer, peut franchir. Au risque d'être un profanateur et d'être frappé par Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible nous dit que l'homme est le chef, ou encore la tête, le sacrificateur, dans d'autres traductions, de son foyer. C'est lui qui représente Christ dans la maison. Donc, lui seul a le droit de franchir le Saint des Saints. Et que se passe-t-il? Lorsqu'il franchit le Saint des Saints, il expérimente l'extase, une transe. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire dedans? Le rapport sexuel est une représentation de l'adoration qu'il y a dans le ciel. C'est tout. C'est une représentation de l'adoration. Et ça nécessite un protocole. C'est la représentation physique d'une expérience spirituelle bénie et bénéfique seulement pour ceux qui respectent l'alliance. L'alliance a pour but de protéger les deux parties. L'alliance a pour but de garantir que ce n'est pas n'importe qui, un irresponsable qui va entrer. L'alliance est toujours faite pour protéger les parties. L'alliance est faite pour éloigner les personnes qui veulent en profiter, abuser et ne pas assumer leurs responsabilités. Voilà pourquoi Dieu dit, tu vas la toucher, épouse-la. S'il n'y a pas d'alliance, mais quand quelqu'un n'est pas lié, mais il n'est pas responsable. Il vient, il va, il rentre, il sort quand il veut. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut que ce soit fait dans le cadre de l'alliance. La pensée de Dieu, l'intention de Dieu, c'était de préserver, et c'est toujours de préserver la beauté et la pureté de la femme. Vous allez voir dans un enseignement plus tard, un autre jour, que la femme a un côté vulnérable que Dieu veut préserver. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un veut te toucher, qu'il t'épouse. S'il ne t'épouse pas, il ne te touche pas. Alléluia. Amen. Et le fait que le sang soit versé, prouve que l'alliance était scellée. Et la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Parce que mon corps est à lui. Ton corps, ma soeur, lui appartient. C'est un Dieu jaloux, il ne plaisante pas. Si tu veux exciter sa jalousie, Dieu ne plaisante pas. Toutes les maladies sexuellement transmissibles sont un résultat, une conséquence juste de la profanation du temple. Là où il n'y a pas profanation de temple, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Ce n'est pas compliqué, ce n'est même pas la peine de chercher. Quand le temple n'a pas été profané, il n'y a pas de maladie sexuellement transmissible. Il y a même d'autres maladies qui ne sont même pas, même des maladies qui ne sont pas transmissibles sexuellement, même ces maladies-là, tu ne les trouveras pas. Là où il y a respect de l'alliance de Dieu, observation des lois et des principes de Dieu, il n'y a pas de confusion. L'obéissance emmène la bénédiction. La désobéissance emmène la malédiction et crée un dysfonctionnement. Alléluia. Le mot hymen vient du mot latin hymen. Du mot latin hymen ou encore du mot grec hymen qui veut simplement dire mariage. C'est la signification du mot hymen. C'est réservé au sacrificateur. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu ne savais pas, tu es venu à Christ et Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Et 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2, Paul nous dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure à un seul époux. Ça veut dire que Dieu te voit comme une vierge pure. En dépit de ma vie passée, en dépit de mes mauvaises expériences, en dépit de ce que j'ai laissé mon corps être profané, Dieu dit, il pardonne. Et il fait abstraction de ta vie passée, ton casier judiciaire devient vierge et même ton corps, il le considère comme étant vierge. C'est le miracle de la justification. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu continues de profaner le temple de Dieu alors qu'il ne t'appartient pas, la Bible dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il ne parlait pas du diable. Ce passage ne parle pas du diable. Ce passage parle des gens qui profanent volontairement. Parce que quand tu vas faire des rapports sexuels au mariage, ce n'est pas le diable qui fait ça à ta place. Ce n'est pas le diable qui a du plaisir, c'est toi. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de détruire ta vie pour quelques secondes d'extase? Mon frère, ma soeur, on est tous passés par là. Dieu ne condamne pas, Dieu convainc. Mais il te dit, repends-toi. Repends-toi. À partir d'aujourd'hui, si tu comprends ce qui est dit, ne joue pas avec le temple de Dieu. Parce que le fait même que tu entends ce que tu entends, fait que ta responsabilité devant Dieu est encore augmentée. Tu sors de là, tu vas faire ce que tu faisais avant, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui... Non, on ne plaisante pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Il a payé un trop grand prix pour ça. Tu t'amuses comme ça. Il exige la sainteté. Il a dit, vous serez saints car je suis saint. Et il t'explique pourquoi. La plupart du temps, Dieu n'explique pas pourquoi. Il dit simplement, tu ne voleras pas, c'est tout. Il sait le pourquoi, mais il ne te dit pas. Parce que lorsque tu aimes, tu fais confiance. Mais lorsque tu es un calculateur, un négociateur, un manipulateur, tu fais juste, pourquoi moi? Mon frère, tu veux te détruire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Lorsque tu commences à prendre ton corps et à l'emmener n'importe où, Dieu va te combattre. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui va te combattre. Et tu verras apparaître toutes sortes de maladies, de calamités, de catastrophes. Et non seulement tu verras apparaître ça, mais je vais te dire, je vais m'amener plus loin. Dès lors que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, et que tu le fais quand même. Regarde l'histoire de David avec Bathsheba. Qui, franchement, aimerait avoir des enfants demain? Qui lève la main. Ok. Qui aimerait avoir des enfants qui s'entretuent les uns avec les autres? Qui aimerait avoir des enfants dont certains violent leur propre sœur? Qui aimerait avoir des enfants qui sont tellement rebelles qu'ils sont prêts à tuer leur propre père? Qui? Personne. Il faut être sorcier pour faire ça. Personne n'a envie. Personne. Mais rappelez-vous, dans la vie, il y a des choses, on ne choisit pas de réussir ou d'échouer. On choisit d'obéir ou de ne pas obéir. Et l'obéissance ou la désobéissance fait tout le reste du travail à notre place. Qui aimerait avoir des enfants qui pratiquent l'inceste? Regardez David. Un péché avec Bathsheba. L'adultère avec Bathsheba. Relation sexuelle, hors mariage avec Bathsheba. Regardez les dégâts qu'il a causés. Il a fait entrer un esprit d'iniquité, un esprit d'immoralité. Qui ne sait pas qui, chez Salomon, s'est manifesté par une propension, par une... Comment on peut appeler ça? Comment peut-on avoir 700 femmes et 300 concubines? Non, franchement, 700 femmes, 300 concubines. Oui, non, on peut aimer Dieu. Il aimait Dieu. Mais 700 femmes, 300 concubines, qui d'ailleurs ont fini par l'éloigner de Dieu. Est-ce que vous croyez que David était content en tant que père de voir son fils être autant à donner? David avait quelques femmes, pas plus de dizaines. Son fils, Salomon, il l'a multiplié par 70. 700 femmes et 300 concubines. Chez un autre fils, cet esprit d'immoralité a plusieurs. C'est comme, vous savez, c'est comme les virus qui mutent. C'est-à-dire, un coup ici, c'est perversion, obsession sexuelle. Un autre coup, chez un de ses fils, ça s'appelait Amnon, c'est l'inceste. Le gars, il tombe amoureux de sa propre sœur, Tamar, et il viole sa sœur, ensuite il la hait. Et son frère aîné, Absalom, voit ça, il tue maintenant Amnon. Wow. Chaque péché devant Dieu appelle un jugement. Dieu t'aime, Dieu pardonne, mais tu vas récolter. Et ce n'est pas la peine de dire, je ne comprends pas, pourquoi tu ne m'aimes pas, tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Dieu a envie de te dire hypocrite. Non, mais non, tu es hypocrite, tu es malhonnête. Mon frère, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Si tu ne sais pas comprendre certaines choses, la vie va t'enseigner, va te gifler. Dieu a dit à David, ce que tu as fait dans l'obscurité, on te le fera devant tout le monde. Tu as fait ça en cachette, je te confronterai en public. Tu as fait en cachette, je te confronterai en public. On a vu des mariages de gens qui ont consommé le mariage avant l'heure. Ils ont péché le jour de leur mariage. Tragédie, catastrophe. Non seulement il y a un esprit de suspicion qui entre dans le foyer. Parce que lorsque tu es capable de voler Dieu, de tromper Dieu, bon franchement, qui tu ne pourras pas tromper? Si tu as réussi à tromper le Créateur, tu vas tromper la créature. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand tu as des relations illicites, hors mariage, il y a un esprit de suspicion qui rentre. Quand vous êtes marié, il n'y aura jamais de confiance entre vous. Toujours suspicion. Et quand à 2h du matin, monsieur n'est pas là, tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, on va à l'église, pourtant on écoute la Bible, pourtant on prie. Mais bizarrement, il y a un esprit, elle est tourmentée, elle est sûre qu'il est avec une autre femme. Et quand par hasard, à 2h du matin, elle appelle et que lui il décroche, il dit, je ne peux pas te parler. Et puis à côté, il entend une voix d'une femme. Elle entend la voix d'une femme. Ça y est, il m'a trompé. Pourquoi? Il y a un esprit de suspicion. Si tu es capable de tromper Dieu, tu peux tromper n'importe qui. L'esprit de suspicion s'infiltre par ce genre de relations sexuelles hors mariage. Et nous avons vu, mon épouse et moi, des foyers détruits à cause de ça. Le manque de confiance. Quand on n'a pas confiance l'un dans l'autre, comment fait-on pour construire ensemble? Tu dois te repentir si ça te concerne. Tu dois te repentir. Moi, quand je rentre, je suis dehors à 3h du matin. Jamais ma femme n'a pensé une seule fois que je suis avec une femme. Jamais. Elle sait que si je rentre tard, même si elle l'appelle, je ne peux pas parler parce que quand je parle avec des gens, je n'ai pas envie d'être dérangé par le téléphone. Même si elle entend une voix d'une femme, jamais elle le soupçonne. Pourquoi? Parce que simplement, le fondement dès le départ, c'était la sainteté. Il n'y a pas eu de porte ouverte à un esprit de jalousie, de mesquinerie. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la vérité?
Amen.
On ne plaisante pas avec ces choses-là. David a dit, ce que tu as fait en silence, en privé plutôt, on te le fera devant tout le peuple. Un an est passé, 2 ans est passé, 3 ans est passé, 4 ans est passé, 5 ans. David a dû dire, ouf, Dieu a pardonné. C'est vrai, Dieu a pardonné. Dieu a pardonné le jour J où il s'est repenti. Le jour J où tu as demandé pardon, Dieu a pardonné. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, les enfants commencent à naître. Les enfants commencent à naître, ils grandissent, ils jouent dans la maison, dans la cour du roi. Le papa les voit, il est content. Ils s'aiment bien les enfants, ils sont tous unis. C'est ce que je veux, en tant que père, je veux que mes enfants soient unis. Gloire à Dieu. Mes enfants s'amusent. 20 ans, les rivalités, les clans dans la famille commencent à surgir, commencent à apparaître. 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25, entre-temps, Amnon viole sa soeur Tamar. 30 ans plus tard, Absalom, le fils aîné de David, non, c'est pas le fils aîné, je sais même plus, bref. Absalom fait un coup d'état contre son père, il renverse, il prend le trône, son père fuit en exil. 30 ans plus tard, la prophétie s'est accomplie, toutes les concubines de David, son père, le roi, Absalom, le fils, tellement pervers, possédé par le diable, a couché avec toutes les concubines de son père, devant tout le peuple d'Israël. Est-ce que vous croyez que David s'était réjoui pour ça? Bien sûr que non. Est-ce que David, tu voulais semer une telle chose? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai désobéi à une loi divine. Dieu pardonne, mais la récompense, tu l'assumeras. Si tu comprends ce que je dis, dès maintenant, mon frère, humilie-toi devant Dieu, demande pardon. On va faire juste une prière pendant quelques secondes. Tu inclines la tête, on n'a pas fini, on va continuer, mais tu inclines la tête, tu demandes pardon au Seigneur. Pour chaque fois que tu as laissé le temple, ce n'est pas ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne t'appartient pas, il appartient à l'Éternel. Seigneur, pardonne. C'est personnel. Ni à gauche, ni à droite, toute tête baissée. Seigneur, pardonne. Pardonne. Et compassion, ta bienveillance, pardonne. Ta volonté, ce n'est pas que je sois dans la confusion. Je ne savais pas. Pardonne-moi. C'est-à-dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pardonne, Seigneur. Il n'y a personne ici qui a envie de récolter de telles malédictions. Il n'y a personne qui a envie de voir des maladies, Seigneur, surgir de toutes parts. Pas seulement lui ou en elle, mais dans ses enfants. Non, Seigneur, tu ne nous appelles pas à être des sources de malédictions pour nos enfants. Tu nous appelles à être des sources de bénédiction, Seigneur. Tu nous appelles à être cette génération Abraham, la génération de la nouvelle alliance, de la bénédiction, celle qui brise les malédictions héréditaires et qui, à cause de son obéissance, déclenche un nouveau cycle de faveur et de témoignage et de puissance et d'excellence, afin que par la qualité de ce témoignage, Seigneur, Christ en nous soit glorifié. Et que les nations voient ce témoignage et acclament l'Éternel qui vit au siècle des siècles, Seigneur. Ce n'est pas ta volonté que je sois confuse ou que je sois confus. Il en va de la crédibilité de ta parole. Il en va de l'intégrité de ta parole, Seigneur. Et là où quelqu'un se trompait lui-même et désobéissait à la voix du Saint-Esprit, Seigneur, accorde grâce et de miséricorde afin qu'un cœur revienne à toi, Seigneur. Et une femme qui laissait le temple du Saint-Esprit être profané à cause des petits plaisirs passagers. Ah, s'il te plaît, Seigneur, illumine les yeux de son cœur afin qu'elle voie les dégâts qu'elle est en train d'occasionner. Pas seulement sur elle-même, mais sur tous ses enfants. Seigneur, que ces liens de malédiction soient brisés et que cet esprit démoniaque qui s'est inséré à l'intérieur pour gangréner, pour répandre la terreur et pour démolir la destinée de cette sœur et de ses enfants, que cet esprit soit chassé dans le nom de Jésus alors qu'elle se repense, Seigneur. Libérant la parole de la foi, elle court, elle agit avec rapidité au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est worthy, il est digne. Il envoya la parole et la parole était échappée de la fosse. Là, nous avons vu simplement. Ça fait combien de temps que je parle, Peggy? On a commencé à quelle heure? À quelle heure? 1h10? Wow. Ok. Bon, on finit là, on finit cette deuxième partie rapidement. Enfin, rapidement. Oui, on finit. Nous avons vu combien de critères, combien de volontés qui interviennent dans le choix de mon futur conjoint? 2. Nous avons vu la première volonté, c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Si mon frère, ma soeur, tu es dans ces deux critères. C'est-à-dire, si tu t'es préservé de l'impudicité, de la fornication. Number one, si tu as accepté Jésus-Christ et que l'autre a accepté Jésus-Christ et que tous les deux vous vous êtes préservés, alors vous êtes dans le domaine du bon. Que quelqu'un dise bon. Alors ça veut dire que Dieu est d'accord pour mettre sa main pour bénir cette union. Mais ce n'est pas parce que Dieu met sa main que ce mariage ne connaîtra pas de crise. C'est pas parce que Dieu met sa main que ce mariage ne connaîtra pas de catastrophe. Parce qu'il y a un autre niveau au-dessus, qui est la dimension agréable. En réalité, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens qui se sont mariés sur la base de ces deux critères. Ils étaient préservés et puis ils croyaient en Dieu, sincèrement. Mais aujourd'hui, leur couple bat de l'aile. Vous en connaissez? Moi, j'en connais. La plupart d'entre nous, nous en connaissons certainement. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la volonté de Dieu a changé? Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. C'est juste parce qu'il y a un deuxième... Il y a une deuxième partie qui intervient. Il n'y a pas que la volonté de Dieu, il y a ma volonté. Que quelqu'un dise ma volonté. Alors la question que je me pose, parce que j'ai une volonté, c'est vrai, mais je veux l'aligner sur la volonté de Dieu. Amen. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux ce qui réjouit, ce qui plaît à Dieu. Voilà ce que je veux. La question que je pose, c'est comment est-ce que je fais pour savoir, que, pour être sûr que la personne que je vais épouser, que je vais choisir, que je vais rencontrer, soit la personne qui plaît à Dieu, que cette union plaise à Dieu. Alors, retournons encore dans Genèse. Retournons dans Genèse. Chapitre 2, verset 18 toujours. En fait, je vais vous dire la vérité, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que deux personnes peuvent se marier dans le Seigneur, préservé dans la sainteté et ayant vraiment reçu Jésus, mais elles ne sont pas guéries. Elles ne sont pas guéries de leur vie passée. Elles ne se sont pas détachées. Elles se sont préservées, mais elles ne se sont pas détachées. Et ça, ça crée des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Dans d'autres cas, les gens sont trop immatures pour se marier. Trop immatures. Leur mentalité n'a pas encore été renouvelée. Donc ce sont des enfants. La Bible dit que les enfants n'héritent pas du royaume. Pourtant, ils se sont préservés. Dieu est d'accord avec eux, mais leur niveau de maturité leur coûte cher. Leur niveau d'immaturité leur coûte très cher. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et quand ils n'ont pas compris ce que je vais expliquer, ils disent, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai fait ta volonté, je me suis préservé, mais mon mariage bat de l'aile. Ou alors je suis sur le point de divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as abandonné. Non, il t'a pas abandonné. Mais tu l'as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, quelle est la clé de cette relation de couple épanouie qui agrée, qui fait plaisir à Dieu et que Dieu lui-même, s'il fallait faire un choix, on n'est plus seulement dans le bon, mais on est dans ce qui lui fait plaisir. Quelle est la clé de cette relation? Genèse chapitre 2, je l'ai dit au verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit... Ah bon, il y en a qui sont déjà fatigués. C'est l'abattement ou... L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La clé, si nous voulons comprendre, la clé d'une relation de couple épanouie, une fois que je suis dans la volonté de Dieu, là maintenant il s'agit de moi, ma volonté. La clé d'une relation de couple épanouie se trouve dans le mot semblable. Que quelqu'un dit semblable. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je vous le lis avec la version du semeur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Vis-à-vis. La version Darby, 1885, dit, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Corresponde. Et la version Amplified Bible, en anglais, dit, je lui ferai, littéralement, je lui ferai une aide compatible, adaptée et en harmonie avec lui. Pourquoi est-ce que Adam a choisi Ève? Était-ce simplement parce que c'était la seule femme qui existait sur la terre? Ou était-ce parce que Dieu l'avait créée de manière semblable, compatible, harmonieuse avec lui? Aujourd'hui, depuis Adam et Ève, la terre est peuplée de plusieurs millions, milliards d'hommes et de femmes. Amen. Mais comment est-ce que je fais sur toutes ces personnes pour trouver celle que Dieu me destine, celle que je vais agréer moi-même? Et qui va réjouir le cœur de Dieu? Que quelqu'un dise moi-même. Moi-même, je suis un être. Créé à l'image de Dieu, mais j'ai trois parties. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, révèle que j'ai trois parties. Je suis un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Que quelqu'un dise trois parties. Et l'harmonie parfaite vient d'où? Lorsque les trois sont en parfaite harmonie avec les trois de l'autre. C'est tout. Lorsque les trois sont alignés, la réussite de ton mariage, une fois que tu es dans la volonté de Dieu, dépend de la capacité, de la qualité, de l'harmonie, de l'alignement que tu constateras avec ton futur partenaire dans le domaine spirituel, dans le domaine émotionnel, donc de l'âme, et dans le domaine physique. Ça veut dire quoi, concrètement? La Bible dit, il faut comprendre une chose, un mariage réussi, contrairement à ce que vous entendez tous les jours. Un mariage réussi, ce n'est pas une seule chair. C'est pas ça. Un mariage réussi, ce n'est pas les deux devenus une seule chair. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est avec elle un seul corps ?» Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. L'expression dans la Bible, une seule chair, fait allusion au rapport sexuel. C'est tout. C'est tout. Un mariage réussi, ce n'est pas être une seule chair. Un mariage réussi, c'est un mariage où on est une seule chair, un seul esprit, une seule âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alors, comment fait-on? Il faut que toutes les composantes de mon être soient en harmonie. Et ça, je peux l'établir avant mon mariage. Je peux le discerner. Harmonie spirituelle. Ça veut dire quoi? Harmonie spirituelle, alignement spirituel, compatibilité spirituelle, vis-à-vis spirituel, ça veut simplement dire que nous sommes au même niveau de maturité. Écoutez-moi bien, il ne s'agit pas de trouver une personne parfaite. Il s'agit juste de trouver une personne avec laquelle je suis en harmonie. Si je suis ancien converti, je suis mûr et j'épouse un bébé dans la foi, il n'y a pas d'harmonie. Le mature va dire, tu es trop bébé. Le bébé va dire, tu en fais trop. Tu pries trop, tu me fatigues. Quand il faut donner la dîme, les offrandes, ah, ça c'est notre argent, il faut que tu... Ah! Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous marier. Ça veut dire que votre foyer sera sujet à beaucoup de tensions. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Tu peux y aller, mais sache que tu vas avoir beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Et sache que mon frère, c'est l'accumulation des petites vignes, là, des petites choses là, qui bousillent un foyer, qui rangent, finissent par ranger comme un cancer. la relation de couple. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. En être en harmonie au niveau spirituel, ça veut dire avoir le même niveau de maturité. À quoi est-ce que tu évalues ça? Est-ce que nous avons la même vision? Pose-toi la question. Est-ce que nous avons les mêmes valeurs? Qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que ton conjoint pense de la sainteté? Est-ce qu'il pense que c'est une notion relative ou une notion absolue? Est-ce que c'est une personne qui respecte les autorités? Parce que s'il est rebelle et que toi tu respectes les autorités, vous n'allez pas vous entendre. Que quelqu'un dise harmonie spirituelle. Il y a plusieurs critères. Bon, j'avoue que j'ai développé tout ça dans le livre. Donc je ne vais pas tout reprendre ici. Qu'est-ce qu'il pense de l'argent? Au niveau spirituel, vous devez être totalement un. S'il y a un décalage, il n'y a pas d'harmonie. Et le fait qu'il n'y ait pas d'harmonie fait qu'il va y avoir certainement des conflits. Parce que vous devez vous harmoniser. Amen. Ensuite, l'harmonie émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos âmes sont au même niveau. J'ai été guéri des blessures de mon passé. Il faut t'assurer que l'autre a été guéri des blessures de son passé. Sinon, même si tu l'aimes, même si tu chantes, même s'il prie, vous allez toujours avoir des problèmes. Parce que je vous ai dit, le mariage, c'est deux personnes qui apprennent à donner. Quand tu as la sanction là, l'autre te vide, aime-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. À un moment donné, tu en as marre. Bon, moi aussi, j'ai besoin de recevoir. Mais s'il te plaît, donne-moi, aime-moi, 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 aime-moi. Tu dis, est-ce que toi tu m'aimes? Non, non, moi tu comprends mon papa, ma mère, j'ai souffert, aime-moi. Tu vas en avoir assez. Un jour, tu vas jeter l'éponge. C'est comme ça que les couples se... Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, 80% des séparations, des ruptures, n'ont pas lieu à cause de l'infidélité. Elles ont lieu à cause du fait que les gens ne supportent plus. Et je ne vous ai pas dit une chose, 70% des demandes de divorce viennent des femmes. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand elles se marient, elles sont généralement celles qui sont le plus enthousiastes. Et quand elles expérimentent la réalité, elles sont celles qui descendent le plus vite. Elles se disent, ce n'est pas possible. Mais je ne m'attendais pas à ça. Moi, on m'avait dit, tu as épousé le paquet. Tu n'as pas épousé le produit, tu as épousé l'emballage. L'emballage dit, le produit, il est capable de faire ça, ça, ça. L'homme, comme il parle comme ça, il a une bonne moralité, il est comme ça, il offre des fleurs. Laisse-moi te dire une chose. Les hommes ont un instinct de chasseur. Quand ils n'ont pas encore attrapé le gibier, ils sont prêts à faire le guet toute la nuit. Ils sont prêts à être persévérants, endurants. Ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. S'il faut des bouquets tous les jours, il va t'envoyer des bouquets tous les jours. Tant qu'il n'a pas eu le gibier. Dès qu'il a eu le gibier, il se repose. Donc, ma soeur, ne sois pas naïve. Aie le discernement. Que quelqu'un dise amen. Amen. Être en harmonie, ça veut dire, s'il est broc, laisse le broc, arrête de faire Mère Teresa. Laisse le broc tranquille dans son coin. Arrête de me dire, oui, mais il est gentil, il va peut-être se convertir. La Bible dit, est-ce qu'un éléphant peut enlever la couleur de ses taches? Pardon, pas un léopard, pardon. Un éléphant, Jésus est malheureux. Oh, oh oui, c'est des éléphants hybrides, hein? Venant de certaines régions du globe. Harmonie spirituelle. Arrête de jouer l'infirmier ou l'infirmière. S'il est down, laisse-le down. Il n'y a pas d'harmonie. Ça ne marchera pas. Tu risques de mettre 10 ans à essayer d'avoir un foyer stabilisé. Sauf qu'à la fin des 10 ans, quand c'est stabilisé, ton cœur a tellement emmagasiné l'amertume, la haine, la frustration, le ressentiment. Ton cœur a tellement emmagasiné que même dans 10 ans, quand il va mieux, toi, tu vas plus bien du tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais écoutez, non, écoutez, on a un peu d'expérience quand même. On coach des couples. On voit ça tout le temps. Aujourd'hui, le gars, ça va. Maintenant, il s'est converti. Le problème, c'est plus lui, c'est elle. Elle l'a tiré pendant 10 ans. Mais elle est remplie de tout ce qu'elle a entendu depuis 10 ans. Un jour, il lui a dit, où furent mes yeux lorsque j'étais épousé? Je me réponds de t'avoir épousé. Elle a emmagasiné. 10 ans plus tard, c'est sorti sur la table. Tu m'as dit ça. Ah, chérie, maintenant ça va mieux. Tu vois, maintenant je n'étais pas hier, je n'étais pas converti. Maintenant je suis converti, maintenant ça va mieux. Alléluia. Elle dit non. Elle a du mal à pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle a tout emmagasiné. Bon, ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est un autre enseignement. Mais elle a tout emmagasiné en elle. Donc, ma soeur, tu vois, un jour son mari se convertit, mais c'est elle qui commence à retrograder. Elle commence à bousiller son propre foyer. Trop d'amertume. Pourquoi? Parce que le temps où il n'était pas au point, elle était restaurée, lui il n'était pas restauré, il lui a fait du mal. Elle a du mal à pardonner. Sagesse. Que quelqu'un dise harmonie émotionnelle. Et quand on rentre dedans, on dit, Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Non, je ne t'ai pas abandonné, mais c'est toi qui en as fait qu'à ta tête. Parce que lorsque tu pries et qu'il n'y a pas d'harmonie dans les trois domaines, lorsque tu pries, Dieu ne te donnera pas la paix. Pourquoi? Parce que Dieu voit l'autre conjoint. Il sait qu'il n'est pas au point. Et des fois, c'est toi que Dieu voit. Il sait que tu n'es pas au point. Il sait que tu vas tuer ton foyer sans le vouloir. On ne fait pas exprès de détruire. On détruit inconsciemment. L'harmonie spirituelle, c'est également être des amis. S'aimer de l'amour philéo. Le premier, l'harmonie spirituelle, c'est s'aimer de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Je l'aime de l'amour de Dieu. Le deuxième niveau d'harmonie, c'est je l'aime de l'amour philéo. Ça veut dire qu'on est amis. Il y a des couples qui se marient, ils ne sont pas amis. Il n'y a pas de complicité. Le gars, il s'assied en face de sa femme, il n'a rien à lui dire. Il n'a rien à dire. Dès qu'elle parle un peu, il s'ennuie. Oh. Il s'ennuie. Elle ne le... Écoutez, j'ai vu un couple qui s'est marié, vous savez pourquoi? Un homme qui a épousé une femme, vous savez pourquoi? Parce qu'elle était responsable de l'intercession et qu'elle priait bien. Donc spirituellement, il aimait cette femme. Elle était responsable dans l'église. Mais, après la lune de miel, parce qu'avant la lune de miel, tout est beau. Tout est beau, formidable. Oh, c'est beau le mariage. Pasteur, Dieu est beau. Oh, Dieu me bénit, pasteur. Dieu est beau. Attends, vis encore un peu de temps. Vis encore un peu, attends. Et au bout de quelques temps, il se retrouve devant sa femme. Il ne la supporte pas. Il ne l'aime pas physiquement. Émotionnellement, il n'a rien à lui dire. Et ils sont sur le bord du divorce. Et ils se sont mariés. Ils étaient dans la sainteté. Et ils étaient convertis. Mais ils n'étaient pas en harmonie. Son être n'a pas aimé son être. L'être de l'autre. Mon être, c'est trois parties. Mon esprit, mon âme et mon corps. Mon âme, ça veut dire, c'est mon complice. Je partage des choses avec elle. C'est ma confidente. C'est mon confident. Alléluia. Ensuite, être en harmonie physique. Contrairement à ce qu'on a enseigné à certains, l'harmonie physique est extrêmement importante. L'harmonie physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'aime de l'amour éros. J'aime son corps. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains et qu'on me délivre pour dire touche ta femme. Frère, tu dois la toucher, tu comprends? Arrête ma soeur, touche ton mari. Tu dis, non, quand je la vois, je suis découragé. Mais pourquoi tu l'as épousée? Quand tu la vois, tu dois faire comme Adam. Tu dois prophétiser, parler en langue, rico sama. Oh, non, ça, quand elle te file là, tu dis non, ça c'est la mienne. Il n'y a rien à faire, ça c'est bon. Si toi tu n'aimes pas ton vie pour toi, ma soeur, quelle que soit ta taille, grosse ou pas grosse, quelqu'un va t'aimer comme tu es. Ah, Jésus. Écoute, s'il t'approche, spirituellement, vraiment, je l'aime bien, mais franchement, physiquement, là, si tu perds 20 kilos, je t'épouse. Tu vois, ça, c'est quelqu'un, il n'y a pas d'harmonie physique. Il n'y a pas d'harmonie physique. Ça veut dire qu'il veut que ton corps, il rêve de Hillary Clinton, non pas de Hillary, il rêve de Claudia Schiffer ou de Naomi Campbell. Mais comme il n'y a que toi en face de lui, c'est toi qui prends. Non, lui, là, faut pas te baser. Oui, il m'a dit je t'aime. Ça veut rien dire. Faut que quand il t'envoie, il a envie de sauter lui-même. Il dit, hey, on attend. Le jour J, ah, ça va barder. Yeah. Que quelqu'un passe. Yeah. Ça va chauffer. Non, il faut que tu sois enthousiaste. C'est-à-dire que même la soirée du mariage, tu dis aux invités, pourvu que vous partiez vite. J'ai hâte de me retrouver seul à seul à l'hôtel. Vous êtes tous à vous nous occuper l'espace pour dire, allez, rentrez chez vous. Voilà, ça c'est l'harmonie physique. S'il n'y a pas d'harmonie physique, mon frère, tu vas dire, non, je l'aime de l'amour du Seigneur, on est complice. Non. Il faut qu'il y ait les trois dimensions. Quand les trois dimensions sont là, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le foyer, il n'y aura pas de crise. Il n'y aura pas de galère. Il n'y a rien. Ma femme et moi, jamais, depuis 8 ans de mariage, jamais de crise. Jamais. Parce qu'avant de se marier, j'ai fait le check-up total. C'est pas le fait de venir me distraire. J'ai fait le check-up total. Et l'harmonie physique, ça veut aussi dire une chose. Ça veut dire que après l'amour éros ou que je suis à l'aise, je n'ai pas besoin d'être encouragé, exhorté. Mais il y a aussi la deuxième dimension, mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui, qu'on verra un autre séminaire qu'on fera plus tard. D'ici là, on ne sera plus ici, je vous garantis, on sera dans une autre salle. Amen. Et le deuxième aspect, c'est la complicité sexuelle. Si ta femme ou ton mari, s'il n'y a pas de complicité sexuelle, l'un ou l'autre sera toujours tenté par l'adultère. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais il faut une complicité sexuelle. Quand on est marié, bien évidemment. Alléluia. Ça, ce sont les trois critères qui font qu'une relation de couple soit épanouie. Si tu as ça, mon frère, ma soeur, tu es qualifié et destiné à réussir. Parce que tu auras observé scrupuleusement le manuel d'utilisation décortiqué. Tu ne peux pas connaître l'échec. Tu ne peux pas connaître l'échec. Maintenant, ce qu'on va voir en troisième partie, c'est que quand tu as observé la première partie et la deuxième partie, tu te rendras compte que la troisième partie va simplement consister maintenant à savoir discerner, à savoir célébrer, à savoir apprécier et célébrer Dieu pour vos différences. Parce que la réalité, c'est qu'on est tellement différents qu'on peut avoir été restauré. Mais si on n'a pas la compréhension et la célébration de nos différences, on va avoir des problèmes de communication et de compréhension mutuelle. Et ça, c'est la troisième raison. Après celle-là, qu'il n'y a pas d'harmonie. La première, c'est la guérison. La deuxième, c'est le manque d'harmonie. La troisième, c'est lorsqu'on ne comprend pas et on ne célèbre pas nos différences. Ça aussi, c'est des sujets de frustration. On accumule beaucoup de choses et on divorce. On se sépare ou on divorce. Ça ne t'arrivera pas parce que nous allons voir la troisième partie dans 10 minutes. Que Dieu le bénisse. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Et levons-nous, s'il vous plaît. Dans le livre, je reconnais que j'ai donné beaucoup plus de détails, mais vous prendrez le livre et vous serez richement édifié. On va incliner la tête et on va prier, lever les mains simplement pour remercier le Seigneur. Je sais qu'il a pris le contrôle et je sais qu'il a délivré quelqu'un. Et élevons simplement la voix pour dire, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, merci. Et dis au Seigneur que tu prends un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, la confusion ne sera jamais ton partage parce que tu feras preuve de discernement. Tu ne te laisseras plus emporter juste par des émotions incontrôlées. Non, mais tu feras preuve de discernement. Tu choisis de t'attacher au manuel d'utilisation. L'échec n'est pas ton partage. Tu n'es pas destiné à échouer. Tu es destiné à réussir et être un sujet de témoignage à la gloire de son nom. Il faut et il sera ainsi. À travers ton foyer, si tu es déjà marié, et que tu vas restaurer, tu vas corriger maintenant avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Et sa grâce surabonde dans ton couple si tu es déjà marié. Et il te donne la capacité d'être en harmonie là où il n'y avait pas d'harmonie. Qu'il renouvelle ton intelligence, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et qu'il t'accorde de voir ton partenaire, de voir ton conjoint comme lui il le voit. Et de l'aimer de l'amour du Seigneur. Et si vous n'étiez pas attaché, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne au nom de Jésus que vous soyez attaché maintenant. Et là où ton esprit était toujours tourné vers l'adultère, à partir d'aujourd'hui, tu regardes la femme de ta jeunesse. Tu bénis Dieu pour la femme de ta jeunesse et tu ne regarderas plus jamais une autre femme au nom de Jésus. Que l'esprit d'immoralité, l'esprit de séduction et de convoitise qui polluait tes pensées, lâche ton emprise maintenant au nom de Jésus. Nouveau départ, nouvelle grâce, nouvelle faveur, distinction divine et ton mariage présent ou futur portera le sceau de l'approbation divine parce que tu choisis d'obéir à la parole de Dieu. Il a dit les cieux et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas. Alors que tu chéris cette parole, alors que tu la serres dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui, à partir d'aujourd'hui la bénédiction de l'Éternel te poursuit, elle s'emparera de toi, même quand tu te cacheras elle te trouvera, elle t'attrapera, elle te couvrira du manteau de grâce, d'une capacité divine à prospérer et à exceller dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, que cela s'accomplisse maintenant. In Jesus, Marilyn, à toi qui fais ces choses, nous sommes reconnaissants. Et Seigneur, il y a quelqu'un qui, comme moi, est rempli de reconnaissance et de gratitude et qui ne peut pas s'empêcher de t'acclamer encore dans l'Assemblée des Saints. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, reçois la gloire, reçois la louange, reçois notre exaltation. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.